Alors, on passe au point 13, projet de loi 16, modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, gestion des TNO. Je te laisse la parole, Lynn.
Ça, c'est une proposition de Daniel Dufault. Le projet de loi a été déposé, donc il a regardé le tout, puis il propose qu'on demande à la ministre des Affaires municipales de retirer les articles 69 et 174 du projet de loi, permettant ainsi le maintien de la politique de participation publique dans le territoire non organisé de la MRC. En réalité, c'est que il y a quelques années, il y avait eu un changement au niveau de la loi qui faisait en sorte que ça venait faciliter la procédure quand venait un temps de changer un règlement. Et là, dans le projet de loi, ben là, c'est comme s'ils viennent écraser cette possibilité-là. Fait qu'on retourne dans les anciennes procédures parce que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc, c'est ça.
Il est bien marqué, là.
C'est très bien décrit.
Tu sais, ça a été utilisé 4 fois dans les 6-7 dernières années, là. Fait que.
Et que le TNO qui est utile.
Avec quoi que personne ne se sert, là?
Parce que c'est trop complexe.
Ben, c'est trop complexe, c'est sûr. Fait que, moi, je suis bien d'accord avec ce qu'on.
Soupir.
C'est qu'en fait, c'était un pouvoir qui était donné. Là, il le retirait, alors que le pouvoir a été très bien utilisé. Puis c'est ce qu'explique Daniel. Ce qu'on souhaite, c'est de rendre facile les consultations auprès des citoyens. Le projet de loi 16 nous ramènerait à des consultations beaucoup plus complexes dans les TNO. Dans le contexte, les demandes, on peut exprimer la demande de retirer les articles 69 et 174 pour que nous, on puisse continuer d'agir.
Là, c'est au niveau des TNO.
Des TNO, oui,
seulement.
Oui. Le reste, c'est les municipalités. Est-ce que ça vous convient?
Oui.
Alors, je recevrai une proposition. Bruno?
Oui.
Merci. Ça va pour tout le monde?
Oui.
Alors, sécurité publique, sécurité incendie. Vous avez le point 14.1. Demande au gouvernement d'accélérer la mise en place d'actions permettant d'accroître la sécurité des piétons, des cyclistes et de tous les usagers et usagères de la route. En fait, c'est en lien avec les accidents qui se sont déroulés près des écoles, les enfants qui ont été blessés ou tués. C'est en lien également avec certaines demandes de notre monde municipal ici. On demande au gouvernement, c'est une proposition qui a été faite par le comité de sécurité publique de la FQM et qui est retournée dans les MRC, demande au gouvernement provincial, au gouvernement du Québec, d'augmenter rapidement et significativement le budget accordé à l'aménagement de mesures de sécurisation prouvées et efficaces autour des écoles. La MRC demande aussi au gouvernement de revoir son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales à cet effet. Je vous rappelle qu'on a 3 municipalités ici qui demandent de réduire la vitesse près des écoles et que ça correspond pas aux normes du MTQ et que la MRC demande au gouvernement de mettre en œuvre la stratégie de prévention en sécurité routière. Je me demande si j'aurais besoin de tordre des bras pour avoir une résolution. Nico Gervais. C'est important, c'est suite au décès de la petite fille ukrainienne, mais on s'aperçoit que les demandes des municipalités pas entendues s'entraînent des problèmes récurrents. Ça va pour tout le monde, c'est parfait. Alors, on passe au point suivant. Moyens de pression exercés par les policières et policiers de la Sûreté du Québec, impact pour le Témiscamingue. Je vous ai partagé un mémo aux collègues qui vous informait que le fait pour les policiers de ne plus remettre en main propre les avis d'infraction avait entraîné à la Ville de Ville-Marie, qui a pris le mandat pour l'ensemble du territoire, des dépenses exceptionnelles. Vous avez été informé des mesures appliquées. Alors, dans le contexte, on va rester très attentif à l'évolution de la situation. On va également regarder, ça a été discuté au comité exécutif de la FQM, ce sera discuté au prochain conseil d'administration de la FQM. Ça concerne absolument tout le milieu municipal, à l'exception des villes qui possèdent leurs propres services policiers. Et je pense qu'il faut être très attentif. Bien sûr, les policiers, s'ils font des moyens de pression, c'est parce qu'ils veulent que ça dérange, donc qu'il y ait de la pression. En même temps, il faut se rappeler que le monde municipal paye la facture à 50 %. Alors, on va s'assurer de faire un suivi serré du dossier. Avez-vous des questions?
Les partenaires, nos policiers, là, on les aide financièrement, mais on fait de la réglementation pour les aider. C'est des partenaires.
J'aime ça, comment tu vois les choses?
D'après moi, le temps va bombarder l'Ukraine demain. je la trouve pas drôle. Hein.
Bien, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas.
Tant que ton partenaire agit de même, là, il n'y aurait plus ça ailleurs que ces municipalités. Donc, je pense qu'ils ont manqué de coche un peu.
Martin, mais ça dérange. Quand tu fais des moyens de pression, il faut que ça dérange.
La Martin? Dernière négociation a duré 30 mois. Avant 30 mois. Okay. Alors, ce serait bien qu'on puisse mettre de la pression sur le ministère de la Sécurité publique.
Le mettre de la bonne façon.
Ben oui. Parce que ça peut être long et très compliqué.
Voilà.
Au fait.
D'autres commentaires?
C'est du chiffre. Je suis à vous. C'est demain, on va
être chiffré. En quelques semaines, je pense qu'il y avait 70 infractions.
En deux semaines, 70 infractions.
Ouais, en peu de temps, là. C'est sûr que là, la sûreté, ils ont accepté, les policiers ont accepté d'aller. En tout cas, il y a encore je pense qu'il y a de la négo locale de temps en temps, là. Mais il reste que c'est vraiment au niveau national là, que ça accroche. Puis, parti pour la partie principale ou les policiers eux-mêmes, là, mais il reste que nous, administrativement, là,
il y a des conséquences.
Il y a des conséquences qui vont assez vite.
Il faut aussi se rappeler que c'est un sujet dont on a été sensibilisé au dernier CSP, au Comité de sécurité publique. Ils nous en avaient prévenu. On a fait un premier. On vous avait donné l'information lors du dernier conseil. On revient avec de l'information qui continue d'évoluer et on va vous tenir informé de toute évolution dans ce dossier-là.
On pourrait demander au cadre de la sûreté qu'il aille faire la livraison.
Ils vont nous aimer, hein? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole. Sécurité incendie, suspension des services en sauvetage nautique.
Donc, si vous vous rappelez, en octobre 2021, il est arrivé un événement à Montréal, alors qu'un pompier qui est décédé lors d'un sauvetage nautique. Dans leur cas, c'était un problème d'équipement, un bateau qui était inadéquat.
Inadéquat, oui.
Donc, au cours des mois qui ont suivi, les municipalités locales et les services incendie ont été sensibilisés aux conséquences liées à ces événements, car le constat, c'est que nos services incendie n'ont pas la formation, ils n'ont pas les équipements, les embarcations adéquats pour intervenir lors d'opérations liées à des sauvetages nautiques. Si vous vous rappelez, lors d'une séance privée, vous aviez mentionné qu'il ne fallait plus en faire pour éviter de mettre la responsabilité civile de la municipalité en cause. Ça a été discuté lors du dernier comité de sécurité incendie de la MRC, qui nous sont venus en disant que ce serait important d'avoir une position officielle pour informer le COAT, parce que sinon le COAT va continuer d'appeler les services incendies, ou la Sûreté du Québec va dire « ben on sollicite les services incendies, donc s'il y a une résolution de la MRC, on va pouvoir transmettre le tout à la Sûreté du Québec et au COAT pour leur dire que désormais, la MRC va suspendre l'utilisation de ces équipements dédiés aux services d'urgence en milieu isolé pour le sauvetage nautique. On inviterait aussi les municipalités locales et la Régie intermunicipale en sécurité incendie du Témiscamingue à adopter la même résolution visant à suspendre les services en sauvetage nautique. Comme ça, il va falloir que la Sûreté du Québec s'organise lors des sauvetages nautiques.
Martin?
Moi, je suis conscient de la recommandation. La seule chose qui m'inquiète, c'est que Témis, là, on est entouré de lacs. La Sûreté du Québec a une seule embarcation en Abitibi-Témiscamingue.
C'est à Rouyn-Noranda, oui.
Donc, je me mets dans tous les milieux que nous sommes. Moi, c'est sûr, je suis chanceux, là, j'ai juste une baie à m'occuper.
Pour l'instant. Ça va bien?
Elle est toute petite. Non, non, ce que je veux dire, c'est que je comprends ça, là. C'est juste que...
Il faut faire plus que juste prendre une résolution.
Le lac 15, le lac Kipawa, c'est pas juste le lac Témiscamingue parce que Ville-Marie est bordée par le lac Témiscamingue. C'est nos pompiers, là, et je trouve quand même que je comprends. Mais ça m'inquiète. Mais ça sera peut-être une pression qui va dire encore une fois au ministère de la Sécurité publique, là, qu'est-ce qu'on fait?
Filet comme fou.
Tu sais, moi, je parlais avec Richard, là, le directeur incendie de notre régie. Puis, il dit, écoute, j'ai vu l'année passée intervenir en Andlié, alors que le bateau de la Sûreté était à la fin de semaine du Rodéo. Et c'était comprenable que le bateau Abitibi-Témiscamingue soit là, parce qu'il y avait beaucoup de navigation, c'était le Rodéo. Fait qu'il dit, on est allé chercher l'individu. Puis il y avait deux policiers sur le quai qui attendaient parce qu'il n'y avait pas d'équipement. Ah. Fait que, tu sais, localement, là, je pense à Abigailis, Lac Kipawa, La Nielle et tout ça, ça ne sera peut-être pas des pompiers parce qu'on va leur dire d'y aller. Ça va être des citoyens qui peuvent être un pompier qui vont y aller pareil.
Mais, il y a aussi qu'à part de la loi, les policiers, on doit te saisir ton boat. Hein. Pour y aller. C'est ça qu'il faisait.
La question actuellement, c'est que, un, les pompiers ne sont pas formés. Si systématiquement, s'il y a un appel d'urgence puis qu'on envoie des pompiers, on est à risque. Le monde municipal est à risque et les pompiers sont à risque. Si ça, et je comprends que dans un territoire de 7500 lacs et rivières, on a besoin d'avoir ces services-là, je comprends que nous, on doit aussi faire, on ne le fait plus parce que notre monde n'est pas formé pour ça et qu'on n'a pas l'équipement pour le faire. C'est une question non seulement de sécurité, santé, sécurité au travail pour les pompiers, question de responsabilité, mais c'est aussi une question d'avoir les moyens de pression qui vont nous permettre d'aller chercher et le personnel formé et des équipements appropriés. Et c'est vrai qu'on a des lacs ici et qu'il faut y penser. C'est tout à fait vrai. Mais dans le contexte, il faut vraiment prendre acte de la fragilité qu'on a sur ce genre d'intervention-là. Puis, c'est pas arrivé chez nous, là, mais actuellement, il y a quelqu'un qui est décédé. L'embarcation était inappropriée. Le courant était trop fort. Il y a des gens qui ont pris un risque. C'est un pompier qui est décédé. C'est pas les gens qui étaient dans le bateau qui ont été sauvés, là. Il y a un pompier qui est décédé et c'est une municipalité qui est en cause. Fait que dans le contexte, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. Il faut commencer par aviser qu'on ne le fera plus. On vous invite à le faire dans les municipalités. Il faut aussi se donner les moyens, dans le territoire qu'on a, d'être capable d'agir correctement et de façon sécuritaire pour les gens qui vont agir. Et je ne pense pas qu'actuellement, on est équipé pour le faire.
Ah? Un commentaire.
Parle fort, Marc.
Oui, je m'en viens. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. qu'est-ce que Martin a fait comme commentaire qui a demandé à pousser, moi, à nous, à la Nielle, on a un grand lac, puis nous, il y a deux ans, un monsieur qui a son moteur arrêté, puis s'est ramassé dans les. Et au banc du barrage, avec le barrage ouvert à fil. Il ne pouvait plus bouger de là, là. Ça n'a pas été drôle, là. Il a appelé qu'il ferme le barrage, tirer le monsieur de son embarcation. Donc, c'est sûr qu'il y a des dangers. Mais l'autre partie qu'il faut amener un développement. Parce que ça existe maintenant. Ils ont développé. Moi, je suis un ancien plongeur. Il a 20 ans, 25 ans. Quand il arrivait quelque chose, il appelait tout le temps les clubs de plongée locaux, la Sûreté du Québec, pour qu'on aille soit chercher quelqu'un qui avait chaviré. Regardez, aujourd'hui, c'est plus ça, là. C'est la Sûreté du Québec à Montréal. Ils ont leur équipement, puis ils les envoient en hélicoptère, puis... Il n'y a plus un privé qui va faire la plongée pour trouver quelqu'un. Donc, c'est le même principe. S'il y a un sauvetage à faire, il faut être équipé pour le faire. Que ce soit des gens formés pour faire. C'est clair, ça. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Là.
Alors, vous êtes conscient qu'on viendra...
Il faut aller vers ça.
Vous êtes conscient qu'on viendra probablement avec des recommandations pour que les services se déploient et qu'il y ait une organisation de ces services-là. Mais le premier geste qu'on a à faire, c'est de dire... Là, nos pompiers, on les protège. C'est fini. Ouais. Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution-là?
Oui.
Marco?
Oui, je peux proposer, mais j'ai un
OK, tu voulais parler, oui?
Ouais, je peux te proposer tout. Parce que là, demander aux pompiers, là, il va falloir arrêter de leur empêcher dans leur cours. On a de la misère à recruter, là, demander. ne sera pas capable d'accomplir toutes les missions qu'il nous donne.
Superman. Alors, Marco, tu fais la proposition?
Oui. Tu as totalement raison. On le soit 40 % de ma population qui est en l'aide de 65 ans. C'est pas eux autres qu'on va aller tirer des bénévoles, faire des pompiers. Puis là-dessus, c'est à peu près 20 % qui vont prendre cours d'école. Il n'en reste pas gros dans le milieu. Puis c'est toujours eux autres qui sont sur l'eau. Comment veux-tu qu'on les sauve? Ils sont tous sur le lac.
Alors, on ne fera pas ce débat-là ce soir, mais ça va pour tout le monde, la résolution, Roger?
Tu fais un geste un peu OK pour cette résolution-là, mais il doit y avoir un moyen d'avertir quelqu'un ou de Sûreté du Québec ou quelque part.
CSP?
Il faut faire un geste.
Tout à fait.
Pour exporter cette décision-là et l'impact, l'inquiétude que ça nous amène.
Mais à toutes les fois qu'on le fait, à toutes les fois qu'on adopte une résolution, elle s'adresse à quelqu'un. C'est pas juste, on prend pas juste une décision entre nous, là. Fait que c'est sûr qu'elle va cheminer, la résolution. Mais on a un CSP, on a aussi des rencontres provinciales où on ramène ce genre de situation-là. Clairement, le message va passer. Alain?
Bien, au niveau du chemin, là, je me rappelle dans mon...
Parle fort, Alain.
Dans mon ancienne vie, on avait, semble t il des traîneaux d'équipement, un 4 roues, en tout cas, limite, mais ça, c'est encore en vigueur.
Ça. Tout à fait.
On peut être en vigueur sur l'eau. Des gens formés, exact. Le risque est moins élevé,
non.
L'ensemble de tout ça.
Un, le risque, c'est du terrestre, OK? Ah, puis les gens sont aussi formés pour les semis, puis où ils l'ont été, mais il y a du matériel. La question, c'est qu'on a eu des demandes qui se sont transférées au SUMI l'année dernière, pour des kayakistes qui étaient pris, puis et là, c'est faut vraiment, et c'est un petit peu, tu sais, il n'y a pas d'embarcation, les kayakistes, les gens sont allés avec leur propre embarcation, des pompiers qui sont allés, c'est sûr que quelqu'un qui est mal pris est mal pris, là, mais il faut bien prendre acte que la personne qui est décédée dans l'événement duquel on parle, c'est pas les gens qui étaient en danger, eux autres qui ont été sauvés, c'est un intervenant qui a perdu la vie.
Mais Alain, le SUMI n'est pas outillé pour aller
sur les plans d'eau. Non, puis ça prend une formation particulière aussi.
Il faut peser chaque mot et les mettre en gras parce que pour ne pas créer confusion non plus dans les appels d'urgence, c'est utile.
Le mot est, ouais, c'est ça.
Exact. Ouais. C'est fait. Monsieur Drouin.
On s'appelle là, une couple d'années dans le CSI, on parlait justement de ça, des plans d'eau. Qu'est-ce qu'à un moment donné, là, en réunion, on disait, c'est qu'il va prendre n'importe quel pompier pour embarquer dans un bateau, puis s'en aller pour aller sauver du monde, alors qu'il ne connaissait peut-être même pas le lac. Fait que quand c'est un individu lui-même qui part avec son bateau, il va savoir ce qui s'en va, il va connaître le lac, il va savoir si c'est une roche, quelque chose de même. C'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui ne connaît pas le lac, un pompier qui prend ça, qui ne connaît pas le lac, puis... Il frappe un objet en chemin, c'est fini pour lui aussi. Là. C'est pas ça aussi. En n'étant pas formé, en n'étant pas équipé, on ne connaît pas les lacs, on est mieux pas aller là, là.
Voilà. Alors, ça va pour tout le monde, cette résolution-là. Donc, merci Marco de la résolution. Lynn, Sécurité incendie, rapport annuel 2022.
Donc, c'est un dépôt d'un document qui a été produit par notre chargé de projet en sécurité incendie. Ce qu'elle fait, c'est un peu les statistiques qu'elle relève là, à travers sous différents volets. Donc, c'est la deuxième année qu'on produit le tout. Donc, c'est quand même un rapport qui est assez court, 9 pages. Un portrait global de ce qui a été fait dans la dernière année.
J'aime la façon dont elle fait. Hein. J'aime ça, la façon dont elle fait.
Ouais. C'est facile à lire, c'est... Ça donne un bon portrait.
Alors, c'est déposé pour vous. Vous avez les comparatifs 2022-2023. Ça va? C'est un rapport. Alors, le rapport est déposé. On passe à gestion des matières résiduelles. La parole est à Cathy pour le rapport d'activité.
Pour le rapport d'activité, j'ai également déposé ce mois-ci, en plus des courbes graphiques, le bilan GMR que je dépose à chaque année, après cette période-ci de l'année, pour démontrer en fait tous les volumes de matière qui ont soit pris chemin de l'enfouissement, puis qu'est-ce qui a été récupéré. Donc, peut-être juste vous mentionner que pour ce qui est du bilan GMR, en fait, les déchets ont augmenté de 0,48 % par rapport à l'année passée, mais c'est sûr que dans ce poids-là, on a quand même envoyé 489 tonnes de déchets de bois à l'enfouissement, ce qu'on n'avait pas envoyé depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que ça a fait augmenter le volume envoyé à l'enfouissement. Il y a des questions sur le rapport d'activité ou le bilan GRR.
Oui, Alexandre?
Sur les données qu'on voit justement, le bois non valorisable, est-ce qu'on parle de matière, quantité, est-ce qu'on mélange dans ce tableau-là des quantités reçues et des quantités enfouies?
C'est ce qui est envoyé, tout ce qui a été transmis à l'enfouissement. Oui,
mais dans le sens, pour faire une tendance au niveau du bois non valorisable, est-ce qu'on regarde aussi qu'est-ce qu'on reçoit non valorisable? Ou...
Oui, plus bas, qu'est-ce qui est en bas, c'est ce qu'on a reçu. Mais tu sais, c'est... Qu'est-ce qu'on a reçu, par exemple, en 2022? On a reçu des bois naturels, 591 tonnes, puis 686 tonnes en bas complètement. Là. Ça, c'est ce qu'on a reçu. Mais c'est sûr que dans le 489 tonnes qu'on a envoyé à l'enfouissement, c'est vraiment de ce qu'on a reçu cette année. C'est une accumulation depuis plusieurs années que là, il fallait faire de la place. On déborde pas. Donc, on en a envoyé à l'enfouissement.
Puis la quantité qu'on envoie à l'enfouissement de ce bois-là, c'est décidé comment? C'est-tu par rapport au budget qu'on a cette année? Puis...
En fait, le budget que l'on envoyait cette année, puis que la dernière fois qu'on en avait envoyé, c'était seulement qu'en 2017, et qu'il y a eu une recommandation du CAR justement pour faire un petit peu de d'espace sur notre site. Donc, on sait plus où mettre, puis on en reçoit. Nous, on reçoit en fait tout le bois de tout le Témiscamingue au complet sans vie à forme. Fait que c'est de l'accumulation, puis étant donné qu'il n'y a pas de marché à l'heure actuelle pour le bois, bien, on fait juste l'accumuler, puis l'accumuler, puis l'accumuler. On essaie de le broyer le plus possible pour prendre moins d'espace, mais encore là, on ne fournit pas à broyer. Donc, c'est ça.
Un jour, on va le brûler.
On espère. C'est pas tout à fait, en tout cas, c'est pas tout à fait la bonne façon de l'enfouir. Là. Ça me déprime. Mais bon, c'était la dernière fois, c'était 2017, c'est ça?
Oui.
OK. Est-ce que ça répond à ta question?
Oui.
Marc?
La ligne d'en haut, rejet compost, juste comprendre, est-ce qu'on transporte, on sort du compost du Témiscamingue?
Oui, c'est les rejets parce que nous, on tamise le compost. Okay. Fait que tout ce qui sort du rejet, donc il y a des matières qui ne sont pas compostées et où c'est sûr qu'il y a du broyage aussi de bois qui ressort aussi au tamisage.
Parce que c'est OK, c'est ça qui est transporté.
C'est ça qu'on envoie à l'entreprise. Okay. Donc le tamisage du compost.
Juste vous dire que je suis allée à Maniwaki, j'ai donné plusieurs conférences dans le dernier mois, puis à Maniwaki, ils ont créé une très grande plateforme, un grand lieu de compostage. Ils reçoivent le compost d'autres MRC. Ils reçoivent la matière compostable de d'autres MRC sur leur plateforme de compostage. Ils sont en voie de certification BNQ. Fait que c'est du compost que tu peux vendre ou que tu peux utiliser en agriculture. Mais on n'est pas rendu à ce genre de situation-là. D'autres questions pour Cathy?
Non, c'est